Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sud-Est dans l'émission Tranche de Vie où nous recevons aujourd'hui Joseph Loza. Il nous a donné une interview il y a de ça quelques années et nous l'écoutons tout de suite.
Merci d'être venu.
Le plaisir et l'intérêt, c'est pour moi.
C'est pour toi, d'accord, pas de problème. Donc on va parler de toi. Joseph Loza, franciscain.
Voilà. Oui, franciscain bontain.
Né au François ?
Au François.
D'accord. Exactement, dans quel coin de François ?
J'aime dire que je suis un balarien.
Un balarien, ça veut dire quoi ?
Moi, c'est Jean Balari.
D'accord.
Donc, en Balari, c'est toute cette partie du Bas-Bourg. Maintenant, on s'aperçoit pas de ce que c'était.
Ouais.
Mais quand on était Jean Balari, c'était Bouc-Bocandal.
C'est-à-dire, c'est la rivière a passé là, c'est
oui,
ça?
Oui, Bouc-Bocandal. Et puis, c'était de la mangrove aussi à l'époque. Donc, mais nous revendiquons, nous les Balariens, nous revendiquons haut et fort que nous sommes en Balari.
D'accord. Donc là, c'est les Balariens. Donc, il y a une confrérie de Balariens. Donc, c'est avec qui est-ce que tu vivais à cette époque dans ce secteur-là?
Dans ce secteur, et je dis que c'est ce qui m'a fait grandir. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, nous étions des bandes de copains. Et si j'ai appris plein de choses de la vie, c'est beaucoup en partant du bord du canal, en partant de l'autre bord, parce que quand on dit à quelqu'un l'autre bord, la personne ne voit pas, ne s'aperçoit pas de ce qu'était l'autre bord.
Mm-hmm.
L'autre bord, c'est qu'il fallait prendre le canot et aller donner à manger à ses cochons qui étaient à l'autre bord.
Ah bon? Donc c'est... l'autre bord, c'est-à-dire quoi? Sur un îlet, c'était quoi?
Il y avait la rivière qui passait.
Ouais.
Et les canaux qui étaient amarrés de ce côté-ci, il fallait prendre le canot pour passer de l'autre côté de la rivière. Et de l'autre côté de la rivière, c'est là que nous avions nos parcs à cochons et compagnie.
Des frères, des sœurs, grande famille?
Oui, famille humble, famille de pêcheurs, avec des sœurs et des frères qui ont vécu la même vie que moi, avec une grand-mère et des tantes aussi, parce que j'ai perdu ma mère, j'étais très jeune.
D'accord.
J'avais 6 ans.
Donc tu étais élevé par des frères et sœurs
Ma grand-mère, mes tantes, frères et sœurs et papa.
D'accord. Donc en gros, quand même une belle vie épanouie, belle enfance.
Oui, parce qu'à cette époque, on se contentait de peu de choses.
Ouais.
Et les amis et camarades, pas seulement du bas du bourg, parce qu'à cette époque, on ne disait pas encore balarien. On disait bas du bourg, et puis nous avions des copains de partout sous le François. Et cette vie que nous avons eue ensemble avec les copains, à Chaparté aussi, ouais, des fois, à Chaparté, les fruits et autres, cette vie nous a rendus solidaires. Nous a rendus solidaires parce que tous, nous avions quand même la même vie. À l'époque, c'était des gens qui travaillaient à l'usine.
Ouais.
Des gens qui étaient pêcheurs, des gens qui étaient petits cultivateurs. Et nous avons connu une vie simple et belle.
D'accord. Et à cette époque où tout le monde vivait ensemble, tout ça, donc l'école aussi à côté, au François toujours, l'école ?
Toujours au François. Maintenant, il y a la maternelle, il y a tout ça, mais j'aime dire que j'étais à l'école tablette. Chez Madame Lise dans Zicard. Parce qu'il n'y avait pas de maternelle. Et dès lors qu'on commençait à marcher, votre mère vous mettait à l'école tablette. J'étais chez Madame Lise dans Zicard, près de l'usine. Et c'est là que j'ai commencé à côtoyer les petits camarades.
Mm-hmm.
C'est vous dire que ce que l'on connaît maintenant avec les écoles primaires, les écoles secondaires, il n'y avait pas tout ça avant.
Il n'y avait pas tout ça,
Merci aux professeurs, merci aux maîtres d'école, merci surtout à mon père, parce que j'allais en mer avec mon père le jeudi ou aux vacances, petites vacances, grandes vacances, et il me disait souvent, tu vois comment c'est dur la vie de pêcheur, si tu veux en sortir, apprends en classe.
Ouais.
Parce que c'est le débouché des gens humbles, de tout ce qui voit de la misère.
Mm-hmm.
L'école laïque peut être quelque chose qui te fera arriver dans la vie.
Donc à l'époque, il tenait déjà un discours comme cela.
Il tenait déjà un discours comme ça, et je vais parler d'une personne qu'on ne connaît pas du tout. Il est mort depuis très 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 longtemps. qui s'appelait Monsieur Imané, capitaine Imané. Et c'était un ami à mon père. Mm-hmm. Et il disait à Victor, mon père, efforce-toi d'élever tes enfants, envoie-les en classe et donne tout ce que tu peux pour tes enfants. Mais l'école laïque, c'est essentiel. Et mon père nous l'a toujours dit et nous avons toujours suivi cette trace.
D'accord. Donc après cette partie école, donc après le François, il y a eu
Il y a eu le lycée. Il y a eu le lycée parce que j'étais quand même depuis cette époque très curieux intellectuellement. Mm-hmm. Je lisais de tout. Je lisais de tous les papiers que je rencontrais. Je lisais les livres que je pouvais avoir. Je lisais de tout.
C'était facile d'avoir des livres à l'époque. Oui et non.
Oui, parce que il y a des par exemple au lycée, je suis tombé sur des professeurs qui avaient constaté mon envie de lire et ma curiosité,
ouais.
Et qui m'apportaient des livres. Il faut dire, et je le dis à un ami que tu connais, c'est Roger Lager, parce ouais. que nous avons chapardé ensemble, nous sommes amis et frères depuis toujours. Il me disait, mais au cas où je n'ai pas appris, on arrive à ramasser les boucaliers.
Donc cette curiosité-là faisait que, d'une certaine manière, on pouvait être au courant quand même de tout ce qui se passe, quoi.
Oui, de tout ce qui se passe, mais tiens-toi bien. Il y avait des journaux avec lesquels on emballait la banane. Mmh. C'était des rebuts de journaux de France qui arrivaient par bateau. Donc quand le journal arrivait ici, il avait 4 mois de retard.
Ah oui, quand même. Hein. Ouais, quatre mois de retard. Donc tu étais en retard quand même de 4 mois sur les infos, alors.
Oui, le Tour de France, j'avais le résultat du Tour de France que je connaissais pas par cœur 4 mois après.
4 mois après. Alors, le lycée Schœlcher, oui.
Oui, lycée Schœlcher, à l'internat.
À l'internat.
Et
c'était quelle promotion? Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là?
Et nous étions toute une bande de Franciscains. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était difficile pour ceux qui étaient au cours complémentaire, parce ouais. que c'était pas encore le collège, c'était le cours complémentaire. Et ma foi, nous avons 2 ou 3 camarades qui passaient mm-hmm. au lycée. Il fallait que les résultats soient plus qu'excellent.
Donc à l'époque, on prenait vraiment les meilleurs, quoi. Tout le monde ne pouvait pas aller au lycée à l'époque.
Tout le monde ne pouvait pas aller, et j'ai bon nombre d'amis et camarades qui étaient très bons en classe, mm-hmm. mais comme ils n'étaient pas dans les 3 premiers, ils n'allaient pas au lycée. Donc maintenant, ça a changé. On dit qu'une classe d'âge, 80% d'une classe d'âge ou même plus, doit accéder au bac.
Ouais.
Alors qu'à l'époque, on avait 3 personnes dans la commune qui descendent au lycée. Et à l'internat, c'était la belle vie, parce que ce n'était pas comme maintenant, où il y a plusieurs lycées,
ouais.
au nord, au sud, au centre. Il n'y avait que le lycée Schœlcher.
Donc, à quel moment l'internat, on allait donc le dimanche, le oui, week-end, on rentrait à la maison.
On descendait le lundi matin avec l'autobus,
ouais.
qui passait
chercher assez
des camarades
à l'époque,
sur la route.
L'autobus.
Oui. Ouais. Et on arrivait au lycée Schœlcher après être passé près du séminaire, parce qu'il y avait des mm-hmm. certains camarades qui allaient au séminaire. Il allait au lycée de jeunes filles parce qu'il y avait des filles aussi parmi nous. Et nous restions toute la semaine et on remontait le samedi quand on pouvait.
D'accord. Donc
parce
des fois,
on restait 15 jours au lycée sans monter.
D'accord.
Donc et ce qui m'a depuis avant le lycée, depuis le collège. Ce qui m'a permis d'entrer dans la vie comme ça, c'est le sport.
J'attendais cette partie sport. Donc, ouais. pour savoir de quel sport il s'agit.
Il s'agit d'athlétisme.
Ouais.
De football, bien sûr. J'ai joué au football dans l'équipe du bas.
Oui.
Du Balari.
Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette équipe-là?
Dans cette équipe, j'avais plein de camarades de l'époque. Et puis, il y avait 3 équipes au François. Il y ouais. avait le bas, le centre et le haut.
Et ben là, on apprend des choses. Là.
Des communes, des garçons du même âge.
C'était des garçons du quartier, quoi.
Des garçons du quartier.
La
donc,
commune
le
même.
Bas jouait contre le centre, contre le centre jouait contre le bas, contre ouais, le ouais. haut. Et nous avions des terrains que nous faisions nous-mêmes.
Mm-hmm.
On enlevait les souches, on enlevait tout ça et on faisait un terrain. Et ils ont constaté, j'ai constaté que j'aimais courir. J'aimais courir et que je courais plus que les autres au collège.
Ouais.
Et arrivé au lycée, là, j'ai eu des performances que l'on a remarquées. Et ma foi, je me suis engagé. Et s'il y a quelqu'un qui m'a... Je lui dois beaucoup. Qui m'a encouragé, c'est quelqu'un qui est mort actuellement. Il s'appelait Bob Nordet. Vous avez peut-être entendu parler mm-hmm. du mémorial Bob Nordet. C'est quelqu'un qui travaillait à la justice à Fort-de-France. Et un camarade du Carbet, tiens-toi bien, un camarade du Carbet, voyant qu'il y avait une équipe au lycée qui promettait, il nous a dit, on nous monte Carbet. Nous avons fait une équipe Carbet, parce qu'il était du Carbet.
Ouais, ouais.
Et là, il y avait des gars du Sud, des gars du Centre, des gars de Fort-de-France, et on est monté au Corbet. Et là, grâce à Bob Nordé, qui était un monsieur avec un cœur gros comme ça, et un coach qui, à l'époque, était très bon, nous avons fait de l'athlétisme. Moi, dans l'équipe du lycée, puis dans l'équipe civile, j'ai eu des performances tant sur 400 mètres, sur 100 mètres, en 100 hauteur, en 100 longueur. J'étais éclectique, je faisais plein de trucs.
Tout ce qui était athlétisme, c'était ton...
Aux 400 mètres, j'étais champion sur 400 mètres. Et j'étais recordman de la Martinique, du 400-300 mètres. C'était... Avec des camarades, tenez-vous bien, des camarades de Fort-de-France, du François, du Corbet. Et on a fait, on a monté une équipe pour représenter le Corbet. Vous dire qu'à l'époque...
Et c'était pourquoi le Corbet, tiens? Pourquoi
parce
pas...
Parce qu'il y a un camarade du Corbet qui a su nous appeler, qui a eu cette initiative, qui a su nous appeler, qui a su agréger toutes ces personnes-là. Mm-hmm. Et on a eu Bob Nordé comme entraîneur, qui était un monsieur excessivement gentil et serviable avec un cogo comme ça, et on est resté au Corbet.
Et le militantisme, ça a commencé quand? Quand est-ce qu'il est né, justement?
Depuis tout petit.
Ah bon?
Depuis tout petit, parce que je tire un coup de chapeau à quelqu'un comme Gessner Mancé. Gessner Mancé, qui très tôt nous a fait voir...
Mais c'est qui ce monsieur?
Monsieur Gessner Mancé n'est pas mort. C'est un enseignant, il est à la retraite, un enseignant marié à une femme du François, la fille de mon coiffeur, Beaucharel. Et il était au Parti communiste, il était au Parti communiste, et nous, enfants humbles, modestes comme nous étions, amis au lycée comme nous étions, et nous avions aussi à cette époque l'envie de refaire le monde. Refaire le monde. Je ne parle même pas.
Et est-ce que c'était lié à la misère ou à des choses qu'on trouvait inacceptables?
À la prise de conscience que nous pouvions changer le monde. Parce que n'oublie pas que je lisais plein de journaux.
Donc,
et que
fait,
je voyais ce qui se passait. Je voyais ce qui se passait à Cuba sous les journées que je lisais. Je voyais ce qui se passait en Algérie sous les journées que je lisais. Et je ne parle même pas de l'épisode c'est Roger, si Roger écoute, Roger comprendra. Quand je lirai le maquis, je ne dis pas plus, il comprendra. Et vous dire que Gessner Mancé a pu nous réunir, pas seulement pour parler politique, mais pour parler de tout, et nous ouvrir au monde. Nous ouvrir au monde. Et très tôt, avec d'autres camarades comme Roger, comme Lair Roger et d'autres, nous sommes dit que nous pouvions faire quelque chose pour atténuer la misère du monde. Donc c'était grandiloquent, mais c'est pour atténuer la misère du monde. Et ma foi, j'ai commencé à militer. J'ai commencé à militer. Et je n'ai pas cessé jusqu'à maintenant.
À cette époque, quand on est jeune, quelle orientation on prend? On se dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, mais où, comment, et comment ça s'est passé justement?
Parce que mon père était pêcheur, mais il travaillait à l'usine. Parce que quand vous êtes pêcheur, la pêche ne suffit pas à l'arrière-saison ou autre. Il faut faire quelque chose. Mon père a travaillé comme manœuvre, il a travaillé à l'usine, il a tout fait. Et je voyais comment il trimait pour nous élever. Et je voyais comment certaines personnes de l'époque, des militants comme Albert Platon et autres, qui faisaient du syndicalisme pour ces gens, c'était l'éveil du syndicalisme, comment ces gens vous donnait espoir dans un monde meilleur.
Donc il y avait déjà quand même des fervents militants quand même.
Oui, qui vous donnait l'espoir dans un monde meilleur. Et c'est cet espoir dans un monde meilleur grâce au combat de tous, grâce au militantisme. Et c'est ce qui a été le moteur pour moi de la vie. Et c'est ainsi que, au lycée et ailleurs, j'ai toujours été de ceux qui ont pris fait et cause pour faire avancer le pays.
Donc au lycée déjà, on pouvait quand même se démarquer et faire passer ses convictions entre camarades.
Oui, grâce à certains professeurs. Quand je vais dire Édouard de Lépine, on sait ce qu'il est.
D'accord.
Il a été mon professeur.
Il a été, d'accord.
Et Édouard de Lépine, sans trop vous le dire, il sait comment éveiller les consciences. Donc si les consciences sont déjà éveillées, ils peuvent être encore plus éveillés s'il y a des éveilleurs autour de soi.
Et à l'époque, on avait plus de marge de manœuvre que maintenant. Un professeur, il est un petit peu limité.
Il faut dire qu'à l'époque, il y avait des professeurs de droite, bien sûr. Ouais. Il y avait des professeurs qui...
Ils ne s'en cachaient pas à l'époque.
Qui ne s'en cachaient pas et qui étaient des anticolonialistes convaincus.
Ouais.
Parce que cette époque, c'est la fin de la guerre. C'est juste après la guerre d'Algérie. C'est la guerre... en Indochine qui n'était pas loin.
Mm-hmm.
C'était des gens qui étaient aussi poursuivis par le pouvoir pour leur prise de position.
Ah ouais, quand même.
Et
hein.
Ouais, dès cette époque, nous avions pris fait et cause pour les gens qui étaient poursuivis.
Ouais.
Parce que, il faut vous dire que quand on est jeune comme ça, on veut renverser la table. Renverser la table.
Oui, là, on est dynamique comme un lion.
On est dynamique comme un lion. Et si vous trouvez des gens sincères, parce que quand on est jeune comme ça, on s'accroche souvent à des aînés. Mm-hmm. Et si ces aînés, vous sentez qu'ils sont sincères dans ce qu'ils font, si vous sentez qu'ils veulent comme vous changer le monde, vous dites, on va changer le monde avec eux.
À cette époque-là, il y avait déjà qui autour, qui gravitait.
Donc, il y avait Roger, il y avait les Roger, il y avait plein de jeunes du François au lycée. J'ai au Lamantin aussi. J'ai connu des camarades fort avancés.
Donc, à cette époque-là, on a ça dans la tête. Mais est-ce tu pensais déjà au métier que tu ferais pendant tout ça?
Très petit, je t'ai dit que mon père disait que c'est l'enseignement et l'éducation qui nous permettraient de sortir.
Donc tu avais déjà
cette vision. Donc j'ai pensé que si un jour je pouvais être instituteur, ça aurait fait avancer la famille. Et puis comme ça, ouais. Mon père non seulement était fier de moi, mais que je pourrais gagner ma vie. Et puis, je suis entré dans l'enseignement après.
Ouais. Pas de regret quand même.
Je suis entré dans l'enseignement, mais je ne suis pas resté dans l'enseignement très longtemps.
D'accord.
Je suis resté dans l'enseignement jusqu'en 69. Jusqu'en 69, et comme j'aime à dire, un jour, je me réveille un jeudi, j'habite le Lamantin,
ouais.
J'entends qu'on fait un appel pour une raffinerie qui va être montée en Martinique. Et moi qui, depuis très longtemps, ai milité pour un développement de la Martinique,
ouais.
Je me suis dit, mais
ça, c'est pour toi.
Si je veux participer au développement de la Martinique, je vais essentiellement et j'irai vers la raffinerie.
Ouais, parce
et c'est là que j'ai postulé.
Ouais.
Mais ce que je n'ai pas dit, et c'est la chose la plus importante de ma vie, c'est que je me suis marié jeune.
Mm-hmm.
Je me suis marié à 20 ans.
À 20 ans.
Et s'il fallait le refaire, je le referais.
Ah, ça c'est bien ça. Ouais.
Si, parce que je suis un gars d'engagement et aussi, je dirais que de challenge aussi. Et puis, j'aime prendre les responsabilités. Je ne fuis pas les responsabilités.
Est-ce que tu es du genre à dire que derrière un homme qui avance et qui fait des choses pour son pays, il y a aussi une grande femme?
Toujours.
Toujours.
Toujours. Et je le disais dernièrement que si l'homme politique n'a pas une femme à côté de lui,
ouais.
Il n'ira pas loin. Et je dis homme politique... Je pourrais dire, si un homme n'a pas
une personne
femme,
influente, tout homme même.
Tout homme.
Ouais.
Si un homme n'a pas une femme qui le comprenne, qui soit là avec lui, dans les bons moments, mais surtout dans les moins bons moments, mm-hmm. L'homme ne va pas loin. L'homme ne va pas loin.
Et justement, puisqu'on parle de l'homme, donc il y a eu cette partie au niveau de la raffinerie.
Oui.
Donc il y a ce virage quand même, c'est un grand virage hein,
oui.
De sortir de l'enseignement. Les parents, le père, il prend ça comment à l'époque? La famille
ma
en
femme,
général.
Ma femme d'abord m'a
oui.
compris. Ma femme m'a compris. Mais certains collègues de l'enseignement disaient, mais tu es là avec nous, tu as ta petite cravate,
ouais,
tu
ouais.
es bien, et tu vas dans le cambouis.
Ouais.
Parce qu'une raffinerie, c'est sale, ça sent mauvais.
Ouais, c'est pas comme maintenant, c'est aussi moderne. Comme... Ouais.
Oui, mais ça sent mauvais. Une raffinerie, on ne connaît pas. Y a...
ouais.
J'ai dit non, c'est ce que je veux faire. Je veux participer au développement du pays.
Et ça a duré combien de temps à la raffinerie?
Je suis resté en raffinerie plusieurs années,
ouais.
Jusqu'en 2002.
Ah ouais, quand même. Hein.
Et
ouais.
Non seulement en raffinerie, j'ai quasiment tout fait en raffinerie. J'ai quasiment tout fait. Je suis entré à l'usine proprement dite, mm-hmm. c'est-à-dire à la fabrication, là où on fabrique vraiment les produits pétroliers.
Ouais.
Et curieux comme je suis, entreprenant comme je suis, j'ai rapidement été remarqué pour pouvoir faire autre chose. Et c'est ainsi que rapidement je suis sorti de l'usine. J'ai été d'abord responsable de l'inspection métal. C'est-à-dire, quand on est responsable de l'inspection métal, on a sur son compte tout le matériel, tous les équipements de la raffinerie, sauf les machines tournantes. Mmh. Ce sont les mécaniciens.
Donc c'est quand même déjà un poste à responsabilité.
C'est un poste à responsabilité parce que une raffinerie est une usine à feu continu. C'est-à-dire que ça tourne tout le temps.
24 heures sur 24.
24 heures sur 24. Ouais. Et si vous voulez qu'il n'y ait pas de panne, il vous faut faire un certain travail d'entretien et de prévention pour que la raffinerie ne s'arrête pas de manière intempestive. Donc c'est une responsabilité. Et j'ai eu des gens avec moi qui sont restés des amis parce que, comme moi, ces gens se sont dit, « Yo mettez en raffinerie matnique. Nous, on tradin, faut que nous à la hauteur.
Ouais.
Faut que nous à la hauteur. » et ensuite, après cette époque d'inspection, j'ai fait de la sécurité. Parce que de toujours, depuis tout petit, je suis quand même interpellé par l'insécurité des gens, par les situations de catastrophes et autres. Et j'ai été aussi responsable, non seulement de l'inspection, mais de la sécurité en général. Parce qu'une raffinerie, c'est une usine où il y a des risques d'inflammation et d'explosion. Donc, j'ai été responsable de cette partie, et à la fois inspection et à la fois sécurité, où je suis resté quand même pas mal de temps. Et la raffinerie Sarah a ouvert des installations en Guyane.
Donc, ça t'a permis de voyager, je suppose.
Donc, je n'ai pas été le premier responsable.
Ouais.
Ça a été un détaché qui en a eu la responsabilité. Et quand il a fallu remplacer ce détaché, on a pensé à moi qui avait fait le tour de raffinerie dans beaucoup de secteurs. On a dit, Joseph Souza, on pense que c'est lui qui pourra tenir ça. Et je suis allé en Guyane, où j'ai eu la responsabilité des installations de Sarah de la Guyane.
Donc tu es resté un petit moment en Guyane. Alors.
Oui, c'est un moment intéressant de ma vie.
Ouais.
Parce que, autant je dis qu'il faut s'ouvrir au monde, il ne faut pas rester simplement dans ce petit pays, parce que beaucoup de gens pensent que le monde se circonscrit en la Martinique. Alors que quand on va ailleurs, qu'on voit vivre d'autres personnes, qu'on voit d'autres situations, surtout en responsabilité, on se dit que ce sont des challenges à relever.
Si je lis entre les mots, ça veut dire que toutes ces expériences-là font la personne que tu es aujourd'hui.
Oui.
Et que c'était important de passer par toutes ces étapes.
Et quelqu'un, on n'en a pas confiance, on n'a pas conscience. Mais toutes les petites choses, même les moindres, forgent un homme. Le fait de n'importe quoi, on ne perd jamais.
Ouais.
On gagne toujours. On gagne en connaissance. On gagne en expérience. On gagne toujours.
La politique, à quel moment on fait tout ça et on trouve encore le courage, la force de se dire, bon, on rentre en politique.
Au lycée. Ma première conférence, je l'ai tenue en 1963.
Au lycée, conférence déjà.
Sous les tables du marché du François.
Ouais. Quel âge?
18 ans.
Ah, 18 ans. Ouais.
Oui, nous étions à l'internat. Nous étions à l'internat et puis nous montons au François parce qu'on s'intéresse à ce qui se passe.
Ouais.
On est homme de gauche. Je pense qu'à l'époque, c'était le général de Gaulle qui était contre le président du Sénat et autres. Et nous arrivons en conférence, fougueux comme nous sommes. Et on dit qu'on veut parler, les gars nous disent « Ouais, vous allez parler, si vous voulez. »
Ah bon.
Parce que les conférences se faisaient au marché couvert du François, sous les tables du marché qu'on accolait, qu'on assemblait. Et puis j'ai pris la parole. De même que Roger Parsemer, Roger Lagier, nous avons pris la parole, tout jeune quand nous étions.
Et on disait quoi? Vous avez dit quoi à l'époque? Est-ce que tu te rappelles des mots, non, de l'idée?
Mais comme je suis féru d'histoire, j'aime ce qui se passe dans le monde. Je lis des journaux, même les journaux anciens. Et puis, nous avions des anciens qui étaient du Parti communiste ou autres, parce qu'il n'y avait pas que des gens du Parti communiste, il y avait des démocrates et des professeurs qui étaient quelquefois nos anciens professeurs. Et nous étions dans la mouvance anticolonialiste, anti-impérialiste. Nous étions dans la mouvance et, ma foi, il faut dire qu'en 71... Après, nous avons été de ceux qui ont participé à l'élection d'Ernest Bonadjou. Donc on nous a enfoui la campagne. Donc toutes les campagnes, nous les faisons, mais dans le même camp de gauche.
Dans le même camp de gauche,
Dans le même camp. Et il est arrivé un moment, 82, où, après une élection perdue par l'équipe devant, on s'est dit, nous avons mis une certaine expérience politique, nous avons demandé qui y ont dit nous.
Ouais, présenter quoi.
Et on a choisi Roger Lagier. Roger pas même là. Nous faisons plusieurs réunions à l'ancienne usine, nous faisons réunion à Caïcole, nous faisons réunion tout partout. Et puis nous dit, nous avons, c'est Roger, nous avons pensé qui peut rassembler tout le monde. Et Roger pas même là. Roger était Guadeloupe. Roger était café et tout en Guadeloupe. Il aura crié, nous a dit, ni à l'élection à venir, c'est où nous avons pensé qu'il pourrait aller. Nous,
ça, ça, c'est des moments forts. Et petit Roger, justement.
Parce qu'il était dans la même démarche que nous depuis toujours, et qu'il avait quand même une certaine popularité. Hein, et puis, c'était un combattant, il avait une certaine popularité. On a dit, on se met derrière lui. Et nous sommes allés, pour cette première élection, on n'a pas gagné. Mais c'était un départ dans la vie qui a entraîné après que nous nous rassemblions, que nous créions aussi ce mouvement. Je vais vite en besoin.
Oui, bien sûr.
Que nous créions le mouvement populaire franciscain. Et de là, nous avions une organisation qui s'est développée et qui perdure jusqu'à nos jours. Et une organisation qui est venue avec un programme, avec une façon de voir, avec une façon de vouloir servir. Et nous nous sommes embarqués dans cette démarche. Et il faut noter quelque chose. Pendant ma période guyanaise, les camarades ont continué à lutter ici.
Oui.
À lutter ici. Et une anecdote, quand il y avait élection ici, bien que j'étais en Guyane, je prenais des congés.
Pour venir.
Je prenais des congés et je venais en Martinique.
Ouais.
Suivre. Et puis je retournais à mon travers en Guyane. Pour vous dire que très tôt, ces jeunes-là, divers, qui se sont embarqués, je ne veux pas dire dans cette aventure, mais cette démarche.
Ouais.
Parce que le nom même du parti, Mouvement, parce que c'était parti. C'était un mouvement, populaire, parce que nous voulions, parce que ça sortait vraiment du peuple, et nous voulions travailler pour le peuple, pour le peuple, avec le peuple. Et puis franciscain, parce que mon papa, il dit trop fort, on dit que les franciscains sont chauvins, et c'est pas un vrai mot.
C'est pas un vrai mot, d'accord, je l'assume réellement ce mot, d'accord. Et dans toute cette mouvance, c'est vrai que... premier combat, vous avez perdu. Et on se sent comment quand on est jeune comme ça?
On a tellement gagné après. Parce qu'après, il y a eu des élections et nous avons pensé qu'il fallait que nous puissions envoyer un autre jeune populaire, un autre jeune dans notre même mouvance, un jeune sorti comme nous du milieu populaire, un jeune homme. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne veux pas dire intelligent, parce que tout le monde, ni un loup, mon intelligent. Ouais.
Mais à l'époque, il sortait un peu du lot, c'est ça?
Oui, parce que c'était un gentil petit boulot, que tout le monde était en main, était content.
Ouais.
Mais un homme avec déjà une conscience très avancée.
D'accord.
C'était Maurice Antis.
On parle de Maurice Antis, d'accord.
Oui, oui. Une conscience déjà très avancée, et nous avons organisé la lutte autour de lui, et nous avons très peu perdu de bataille depuis.
Et pourquoi pas Joseph Loza? Qu'est-ce qu'il...
Il faut dire que depuis mon plus jeune âge, ma devise, c'est servir.
Donc peu importe...
À n'importe quel poste, mais servir.
D'accord.
Ça a toujours été ma devise.
Est-ce que les batailles étaient aussi rudes que maintenant? Est-ce que les hommes étaient virulents comme maintenant?
À un moment, ils étaient virulents. Parce qu'à un moment... c'était pas simplement des interventions télévisées ou des interventions à radio, c'était quelquefois des interventions à la campagne, dans conférence.
Il y avait des vis-à-vis.
Il n'y avait pas l'éclairage public comme maintenant.
Ouais.
c'était des flambeaux. C'était quelquefois assez hard de monter en conférence. Hein. Et puis les élections, c'était pas des élections soft comme maintenant. Mm-hmm. C'était des élections où c'était vraiment dur. Hein. C'était entre les adversaires, c'était vraiment dur.
Donc il fallait vraiment être passionné.
Il
quand
fallait
même,
être passionné parce que j'ai connu cela avec les camarades, d'autres camarades, et les anciens peuvent vous le dire. Quand on avait une élection François, c'était, je ne veux pas dire que c'était comme la Syrie, mais on avait des forces militaires de gendarmerie ici dans toutes les rues. On avait quand même une situation difficile, difficile et tendue. Et tendue lors des élections. Et nous étions là, nous étions aux premières loges.
Ouais, et jeunes quand même à l'époque.
Jeunes aux premières loges, à regarder. Et jeunes aux premières loges. Donc nous avons été forgés et bâtis par tout ça.
Ouais. Quand tu jettes ton regard sur tout cela, quels sont les moments que tu retiens? Je sais qu'il y en a beaucoup. Je sais que tu as beaucoup voyagé. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler.
Oui, oui.
Ouais. Il y a des moments ou des périodes qui t'ont marqué?
Ma toute jeunesse m'a marqué.
Ouais.
Parce que
il y a beaucoup de choses à raconter. On peut peut-être écrire un bouquin.
C'est de là ouais. qui est parti tout ça. Ma tante jeunesse. Mon époque cours complémentaire au lycée, le lycée m'a marqué parce que ma période sportive aussi. Ce qui m'a marqué pour la vie, c'est l'engagement que j'ai pris quand j'avais 20 ans.
Ouais.
Je suis marié. Et ma foi, j'ai eu raison parce que avec le soutien, le concours de mon épouse, j'ai pu quand même, ensemble avec elle,
ça n'a pas toujours été facile, je suppose. Une vie bien remplie, quand même. J'écoute.
Quand on y 20 ans, ou quand il m'aille, ou quand il dit papa, ou quand il m'aille, ou pas n'y a rien, on est contre tout. Ou pas n'y a rien, pas tant. Et ou quand il dit maman, madame, ou quand il m'aille, maman, madame, ou quand il y a rien, pas tant, que tu m'aille, quand il m'aille, puis il y a rien, pas tant. Mais, ou qu'on prend un engagement de vos parents. Et merci qu'il m'ait fait confiance.
Donc à l'époque, il faut que tu ailles les parents
faut
pour
aller. Faut aller. Et merci qu'il m'ait fait confiance parce que il y a d'autres manières qui m'ont peut-être un petit peu sérieux qui m'a fait bien. Et ma foi, cette période m'a marqué. Et puis aussi, ma vie professionnelle m'a marqué énormément. Elle m'a marqué parce que ça a été une vie d'engagement, une vie de responsabilité.
Ouais.
J'ai beaucoup pris de responsabilité parce que j'ai parlé de la Guyane, mais j'ai été aussi responsable aussi des stations de Guadeloupe, de Sarah de Guadeloupe. Et tout ça, c'est une vie de responsabilité. Et c'est à cause de ces responsabilités que je ne me suis pas plus engagé à l'époque.
Ouais.
Mais ce que je te dirais, j'ai été de ceux qui ont, avec d'autres camarades, écrit les conventions de Sarah qui ont donné, parce que j'ai été, ce que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, on en reparlera, je suis un syndicaliste.
Ouais.
Et nous avons écrit les conventions de Sarah qui donnaient certains avantages aux salariés. Et j'ai pu partir en 2002 avant d'entrer officiellement à la retraite. Et je suis parti pour servir la ville du François.
Donc ça ne s'est pas arrêté à la retraite. On continue encore.
Je suis parti avant terme, avec des avantages bien sûr, à la retraite, pour servir la ville du François. Et mon engagement syndical, on pourrait en rester longtemps dessus. Parce que j'ai fait du syndicalisme en tant qu'enseignant. Comme tout le monde.
Il y avait des choses à revendiquer à l'époque.
Oui, parce que c'était précaire.
Oui.
Mais je n'étais pas un dirigeant. J'étais simplement un adhérent. Et quand je suis arrivé à la Sarah, où nous étions en France avec tout un groupe, on s'est dit, on a pris un engagement pour une usine nouvelle qui va être montée, mais nous devons nous défendre. Nous sommes allés en France dans des raffineries. On a côtoyé des gens, des syndicalistes de raffinerie. On a vu que ce que c'était, ils nous ont ouvert les yeux. Et depuis là-bas, on s'est groupé solidaire. Et au retour en Martinique, on a dit, bien sûr, on va tout travailler pour que Sarah puisse faire son job, mais nous, on va nous défendre. Et nous avons écrit, nous avons passé des nuits, des journées à nous organiser. Et c'est de là qu'est né le syndicat de la Sarah. Ça a d'abord été la CFDT, puisque c'était un syndicat de gauche, CFDT. Et ensuite, j'ai été au conseil syndical de la Martinique, de la CFDT, et avec d'autres camarades, comme Denis Lange et beaucoup d'autres, surtout Linette Beausoleil, qui est morte depuis, nous sommes dit, revendiquons le syndicalisme martiniquais. Et nous sommes passés de la CFDT à la CDMT. Nous avons créé la CDMT. Un petit groupe, nous avons créé la CDMT. Avec Marie-Sainte, Henri Marie-Sainte, qui est mort, qui est mort depuis. Avec Catherine, qui est encore là. Qui est encore là. Nous avons créé la CDMT pour un syndicalisme ancré sur nos réalités martiniquaises.
Donc toujours cette fibre de vouloir aider, de changer les choses.
De changer les choses et de défendre.
Et de défendre.
De défendre surtout les plus humbles.
Alors on va arriver justement, on va parler un petit peu de la Martinique dans le reste du temps qui nous reste.
Ouais.
Donc après tout ça, donc tu as pu voir les différents virages, les changements dans cette Martinique.
Ouais.
Les grands moments justement dans tous ces changements que tu retiens. C'est vrai, il y a eu les élections notamment au François. Il y a eu tout ce parcours aussi avec Aimé Césaire où vous aviez de bons contacts.
Aimé Césaire, mon père est pêcheur. Mon père va en mer le dimanche. Et c'est moi qui vends le poisson, souvent. C'est moi qui vends le poisson, souvent, au marché du François. Il me dit, il y a Aimé Césaire qui est venu au François dimanche tard. Allez écouter conférence-là. Parce que, comme mon père et ses amis disaient que quand Aimé Césaire parle, il avait une phrase célèbre. Le Larousse sourit. Donc, il y avait une phrase célèbre qui faisait honneur au discours d'Aimé Césaire. Et il voulait toujours, quand Aimé Césaire parlait, que j'aille écouter. Que j'aille écouter parce que c'était belle parole. Et ensuite, avec la mouvance des camarades, on a toujours fait en sorte de nous former. De nous former pour pouvoir s'exprimer. Parce que maintenant, c'est la radio, je suis là, tu es en face de moi, mais à l'époque, en conférence, tu avais la foule devant toi.
C'était le contact direct avec le public.
Tu avais la foule devant toi. Donc, il fallait tenir le micro. Et quelquefois, quand tu tenais bien le micro, certains amis te disaient Tchembeï, parce que celui qui devait te remplacer au micro n'était pas arrivé. On te disait Tchembeï, donc tu as déjà fini de dire ce que tu as à dire,
mais
il faut rester 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, et il faut trouver des choses pour ne pas dire des bêtises non plus.
Ouais, c'est ça.
Et donc cela nous a tous, à l'époque, beaucoup formés.
Quels sont les principes, justement? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Ils se disent, jusqu'à maintenant, de toute façon, c'est possible. Parce qu'on dit qu'on a tendance à dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, ce qui doit être certainement fausse. Mais quels sont les principes qui t'animaient et que tu as encore gardé?
Servir. Servir parce que j'ai beaucoup reçu de mes camarades, de mes parents d'abord, de ma famille, de mes amis, de mes maîtres, de mes entraîneurs. J'ai beaucoup reçu. La vie m'a beaucoup donné. Et il faut que je remette. Je ne remettrai jamais
à hauteur
à hauteur de ce que j'ai reçu.
D'accord. Et donc toute la partie, la carrière politique a continué. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Il y a eu de grosses batailles au François. Et puis après, bon, on va juste justement raconter un petit peu ce qui s'est passé. Puis depuis, à la municipalité, donc le mouvement populaire qui continue à être présent au François et dans toujours cet objectif de servir. C'est ce qui vous anime.
Oui. Parce que quand je suis revenu au mouvement populaire franciscain, nous sommes allés aux élections, nous avons gagné, et je tiens à le souligner, nous avons gagné plusieurs fois, plusieurs batailles, et quelquefois nous avons fait élire des gens qui nous ont laissés. Mm-hmm. Mais le découragement n'est pas du mouvement franciscain. Nous ne connaissons pas le découragement du mouvement populaire franciscain. Et chaque fois, nous sommes retournés à la bataille. Mm-hmm. Nous sommes retournés et nous avons quasiment toujours gagné.
Bien sûr, il y a eu des peines quand même.
Il y a eu des peines. Ouais. Il y a eu des peines, mais toujours, on a su rebondir. On a su rebondir et remonter. Mm-hmm.
Est-ce que, à toute cette époque, tu penserais qu'aujourd'hui, tu serais maire du François?
Je ne le pensais pas.
Ouais.
Vraiment. Mm-hmm. Je ne le pensais pas. Quand tu te formes comme ça, arrivé à un certain âge, tu es disponible. Mm-hmm. Tu es disponible et tu es conscient que tu as les capacités de le faire. Mm-hmm. Tu es conscient que tu as les capacités. Et quand tes amis viennent te voir, te dire, Jojo, voici la situation telle qu'elle est. Et quand ton meilleur ami vient te dire, voilà la situation telle qu'elle est. Mmh. Et on pense que c'est toi qui feras l'affaire. Tu n'as pas le droit de répondre tout de suite.
Ouais.
Tu n'as pas le droit de répondre tout de suite parce que, je te disais tout à l'heure, un homme ne vit pas tout seul.
Ouais, il y a toute une famille.
Exactement. Ouais. Mmh. J'ai vu ma femme, j'ai vu mes enfants. Mes enfants qui, disons-le, a suivi le même cheminement que leur père et qui, très tôt, se sont engagés en politique, ont fait même des études politiques, mmh. Qui sont dans la mouvance de gauche. Et très tôt, ils m'ont dit, papa...
D'eux-mêmes, ils se sont dit, ils ont suivi, ils ont vu aussi leur père à l'œuvre.
Oui, on a fait quelquefois des conférences, il m'est arrivé de faire des conférences en même temps que mes fils.
Oui, d'accord.
Il m'est arrivé de faire des conférences en même temps que mes fils. Et mes fils sont toujours dans cette même mouvance, de revendication, mm-hmm. pour toujours plus de Martinique. Toujours vertical. Parce que chez nous, le maître mot, c'est la verticalité. Mm-hmm. On ne baisse pas la tête, on est vertical. Et un aspect qui est récent, on n'en a pas parlé, c'est l'amour que nous avons de là d'où nous sortons, c'est d'Afrique.
Ouais.
Depuis toujours, j'ai voulu connaître encore plus sur l'Afrique. J'ai chéri l'Afrique depuis toujours. Et on a fait notre arbre généalogique de la famille Loza.
Ouais.
Et on sait même de quelle région d'Afrique on sort.
Ça, c'est bien, ça. C'est encore l'idée de rechercher un petit peu ses racines, ses sources.
Ouais. Et j'ai eu l'opportunité d'aller en Côte d'Ivoire.
Ah.
Oui. Et sur la terre-mer. Et c'est pas la première fois que j'allais en Afrique, parce que j'étais allé en Afrique du Nord déjà deux ou trois fois avant, mais je n'avais pas encore eu l'opportunité. Mm-hmm. Et j'ai eu l'opportunité d'aller en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai retrouvé l'essence même. Mm. L'essence même. Et dernièrement, c'est parce que je suis en service à la mairie que je ne suis pas allé au Cameroun dernièrement, ouais. parce que ma femme a fait le périple, parce que j'ai un fils qui y travaille.
D'accord, d'accord.
J'ai un fils qui travaille au Cameroun. Et nous aimons l'Afrique, nous chérissons l'Afrique, avec toutes les difficultés que connaît l'Afrique, mm-hmm. mais nous savons que c'est le continent d'avenir. Et puis, nous pas haïens, si nous passons à côté de nous sortir.
Voilà, ça c'est vrai, maître mot. On prendra le temps une prochaine émission pour parler des voyages, parce qu'il y a Cuba, je sais,
oui,
aussi.
Il y a l'Amérique du Sud, beaucoup l'Amérique du Sud.
Exactement.
Beaucoup l'Amérique du Sud.
Donc, on parle très rapidement de la Martinique. Est-ce qu'il y a des choses qui te chagrinent? Quand on est maire d'une commune, on est aussi un homme, et le regard du maire est celui aussi de Joseph Loza.
Ouais. La situation du pays est difficile. Et ce n'est pas peu dire que de dire difficile, parce que la Martinique, actuellement, est une terre où les jeunes sont au chômage, où l'environnement est difficile à vivre, où on sent que, même au sein des familles, ce n'est plus comme avant, quand nous étions petits, que la réalité des familles maintenant, ça m'interpelle. Et je le disais dernièrement, nous étions camarades, nous, plus solides avant.
Est-ce que ça veut dire que les monnaies étaient plus courageux avant?
Oui, les gens étaient plus courageux avant.
Ouais.
Les gens étaient plus courageux. Et je ne suis pas contre le fait qu'on aide les gens. Je ne suis pas contre le fait qu'on aide les gens. Mais je sens que les gens maintenant quémandent un petit peu.
Baissent un peu les bras.
Ouais. Et allongent la main, souvent.
Un peu plus facilement.
Et il manque, à mon avis, un peu de courage pour affronter la vie.
Quand on est maire comme ça, est-ce que des fois, on veut faire des choses et puis on sent qu'on ne peut pas?
Tous les jours, parce que à cette place-là, tu es en contact direct avec la réalité sociale du pays.
Ouais.
Et tu vois régulièrement, tous les jours, des gens qui viennent à toi, qui te parlent de leurs problèmes, des problèmes qui sont réels. Et tu vois ce que tu peux faire de minime. Mais surtout, tu vois ce que tu voudrais faire et que tu ne peux pas faire pour ces gens.
Ça, c'est important de le dire, parce que là, au moins, on met le doigt sur quelque chose.
Ouais.
Et est-ce que ça arrive des fois que c'est des choses qui trottent dans la tête en arrivant le matin à la mairie, dit tiens, il y a tel problème qui m'attend, telle chose.
Les camarades et amis me disent, mais comment tu fais quand je pars de la mairie, quand j'arrive chez moi, je suis à ma maison.
C'est important de faire la distinction entre les deux.
Je suis à ma maison.
Oui.
Je ne vais pas dire que je mets tout de côté, mais je suis à ma maison. Mais le lendemain matin, quand je prends la voiture et que je démarre la voiture, je suis déjà quasiment à la mairie.
Oui.
Donc, il y a cette parenthèse de mon domicile, de mon chez moi, où j'aime beaucoup les fleurs. J'aime beaucoup les arbustes. J'aime beaucoup les plantes.
Donc c'est un sas.
J'aime l'environnement.
Permet de.
Et c'est une décompression. Une décompression en dehors de l'accaparement politique. Mais à partir du moment où j'ai pris ma voiture, je descends au bout, je suis déjà dans tout ce qui m'attend.
D'accord. Les gros chantiers de la ville de François. Je sais qu'en ce moment, il y a le problème des sargasses.
Ah oui, ça, c'est... j'y reviens.
Oui.
J'y reviens ce matin, figure-toi, à 6h30, j'étais déjà à Presqu'île. Et la semaine dernière, je commençais ma journée par le bord de mer, par le rivage, parce que c'est un problème prégnant, un problème difficile.
Est-ce que, si je dis la vérité qu'on dit, qu'on se sent impuissant par rapport à ça, en quelque part? C'est-à-dire, on a des moyens, mais on ne sait pas lesquels à adapter, peut-être?
Non, mais on n'a surtout pas de moyens.
Ouais.
Ou mieux dit, on a peu de moyens. Peu de moyens parce que ce phénomène dont on parle actuellement, le phénomène de sargasse, ça ne fait pas longtemps que ça a apparu.
Donc c'est nouveau.
Donc on n'a pas du recul. Donc on va à tâtons quelquefois. On ne connaît surtout pas la réalité des choses.
Il est important de dire les choses franchement, que la population comprenne.
Ouais. Franchement, pour que la population comprenne, mais que la population comprenne aussi que, comme c'est nouveau, par exemple, la situation des sargasses vis-à-vis de la santé des gens. Nous savons que ça dégage de la H2S. Je t'ai dit que je suis passé en raffinerie. Et il n'y a nulle part où il y a autant d'H2S qu'en raffinerie. On produit des H2S qu'on brûle à la torche. Donc, c'est un gaz que je connais depuis très longtemps. Je connais sa toxicité. Je connais l'odeur de Spoury, je sais que c'est gênant.
Ouais, ouais, ouais.
Je sais que quand ça arrive au rivage et ça pourrit, même pour la faune et la flore, mm-hmm. c'est difficile. Mais tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup de moyens, Trois-Villes. Tu essaies de faire ce que tu peux, tu essaies de faire, d'alerter les pouvoirs pour qu'on mette des balises, pour mm-hmm. qu'on connaisse l'H2S qui sort, à quel pourcentage, à combien de ppm ça sort.
Mais au fond, on sent que c'est pas suffisant.
Tu es démuni et le préfet est monté chez nous samedi. Il est allé à deux endroits au François, il a la frégate S2 et il est monté à Presqu'île. Mais là, j'ai vu un préfet qui est allé sous le terrain. Mmh. La sous-préfète aussi est montée plusieurs fois sous le terrain avec nous. Et on sent qu'il y a des choses que l'État devra faire avant nous. Parce que les sargasses viennent de la mer. Mmh. Et avant d'arriver au rivage, ça revient par la mer. Qu'est-ce qu'on va faire? Surtout qu'il y a 2 ans qu'il n'y a pas eu de d'échouage. Et les gens se sont dit, pas seulement l'État, « Ah ouais, sargasses là, fini. » Mais sargasses là, bite des mérites dans les eaux.
Ouais.
Ils disent, on n'est pas fini. Donc, il y a énormément de choses à faire. Ouais. Et surtout qu'au François, et j'étais dans une réunion juste avant de venir, mm-hmm. c'est pourquoi les gens doivent m'excuser de ce retard que j'ai eu. Et je disais que si au Diamant, à Saint-Just, là où il y a de belles plages, de grandes plages, on peut ramasser facilement les sargasses. Tandis que les rivages du François, c'est pareil, Robert.
Ah, c'est difficile à avoir accès.
C'est excessivement difficile. Mm-hmm. Et tous les petits coins sont particuliers. La presqu'île, c'est pas frégate.
Ouais.
Frégate, c'est pas mansarde.
Donc vraiment, il y a une réflexion à faire chaque fois.
Et quand mm-hmm. tu arrives, quand on te dit que des sargasses arrivent, parce que mes agents ont leur réseau et on sait par les pêcheurs, mm-hmm. quand il y a de très grandes nappes au large qui arrivent. Quand on te dit qu'il y a une très grande nappe qui arrive, et quand on te dit que le François va recevoir un paquet, et qu'on te dit ça va vers Presqu'île, vers la baie du François, et que tu prends ta voiture, que tu arrives à 6 heures du matin à Presqu'île, et que tu vois la baie complètement bouchée, tu as dû voir sur Facebook.
Oui, j'ai vu des photos, ouais. c'est quelque chose, c'est impressionnant.
C'est impressionnant, tu te dis, à la place que tu occupes, waouh, ça m'a qu'à y faire. Tu as dit, waouh, ça m'a qu'à y faire. Et bien sûr, la connaissance insuffisante du phénomène est atténuée après parce que il y a une bonne partie des sargasses qui coulent. Mm. Donc, on ne connaît pas encore suffisamment le phénomène pour prévoir que ça va arriver. Donc, c'est en marchant qu'on connaît le chemin.
Donc ça, c'est des gros chantiers.
Un très gros chantier.
Et au niveau du François, on va continuer très rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps.
Oui.
Donc il y a eu un des gros chantiers qui s'est terminé, l'église du François.
Oui, et parce que nous avons beaucoup construit.
Oui.
Nous avons beaucoup construit.
Vous avez une volonté aussi au niveau des logements.
Oui. Et quand je dis ça, je te parle de l'engagement du mouvement populaire franciscain. Nous avons beaucoup construit et reconstruit. Mais maintenant, beaucoup de choses que nous avons eu à construire ont un certain nombre d'années.
Donc il faut l'entretenir aussi.
Il faut l'entretenir et puis maintenant, il faut penser à des travaux importants. Mm-hmm. Des travaux importants qui coûtent cher. Nous savons que nous avons ça à faire. Tu as parlé du problème de logement. Comme partout en Martinique, il faut qu'on construise. J'ai beaucoup de demandeurs de logement. Maurice Antis me le disait, mais je le vois maintenant.
Ouais.
Le jeudi, quand on reçoit du monde, beaucoup de gens viennent pour un logement.
Pour un logement.
Donc, beaucoup de gens viennent parce que ils ne travaillent pas ou que leur enfant ne travaille pas. C'est ça. Et maintenant, beaucoup plus qu'avant, je vois beaucoup de gens qui viennent pour un bon alimentaire. Et ça te fend le cœur.
Et toutes sortes de catégories.
Ça te fend le cœur quand, comme moi, tu as connu une enfance difficile. Tu as vu des voisins avoir des difficultés pour nourrir leur famille. Chez nous, ça nous tenait, nous t'étais à manger, bon tiens. Mais quand une mère vient près de toi et te parle de ses problèmes, et que tu n'as de solution que lui donner le minimum... Mm-hmm. Même si tu veux, tu ne peux pas. Donc, c'est pourquoi je dis que la situation sociale en Martinique est vraiment difficile.
Donc finalement, un maire, il est un petit peu psychologue, hein, quelque part, finalement, puisque le contact direct comme ça avec des gens qui vivent des situations difficiles, il faut pouvoir leur dire quelque chose.
Oui, et l'avantage, je ne sais même pas s'il faut parler davantage, mais la compréhension des situations. Quand tu n'es pas sorti des cuisses de Jupiter, il y a cette compréhension des situations que tu as parce que tu as vécu, parce que tu l'as vu autour de toi.
Tu as vécu ça, ouais.
Mm-hmm. Que tu l'as vu autour de toi. Donc tu comprends. Tu comprends la souffrance des gens. Et ma foi, ton engagement de faire pour amoindrir la douleur des gens, tu l'as toujours ancré en toi. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas, quelquefois, avec les situations économiques et budgétaires, faire ce que tu voudrais.
Alors, avant de terminer, Monsieur Joseph Loza, quelque chose qui... un coup de cœur, quelque chose qui fonctionne. Tout, on ne va pas dire que tout va mal. Il y a quand même des choses...
Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. C'est l'engagement de mes collègues.
Ouais.
Il y a des collègues qui sont à la tâche, là. Ils sont à la tâche.
Il y a un vrai travail de fourmi, on ne les voit pas forcément.
Ils sont préoccupés comme moi-même de la situation. Ouais. Et ils donnent tout ce qu'ils peuvent. J'ai aussi des gens, des équipes autour de moi. J'ai des équipes autour de moi qui donnent tout ce qu'ils peuvent. Et j'ai des agents de la mairie qui sont à la tâche. Ils n'ont peut-être pas toujours tous les moyens.
Ouais. Ils sont volontaires.
Mais ils sont volontaires et je leur demande.
C'est la première fois que j'entends un maire qui parle de ses agents comme ça.
Oui, je leur demande d'être toujours à la tâche et de servir le François. Je leur demande, comme je le demande à mes collègues élus et je sais qu'ils sont à la tâche, je leur dis, le François attend de nous. Et surtout pour les agents, je dis aux agents, mais vous êtes payés, je fais tout moi possible pour que vous soyez payé. Et ce que je n'aime pas, je ne l'ai pas dit encore, je n'aime pas les gens qui trichent. De tout temps, depuis petit, je n'aime pas les gens qui trichent. Et je veux que les gens aient conscience de leur job, de l'effort qu'on leur demande, et j'aime tellement que les gens donnent le maximum d'eux-mêmes.
Ben, je crois qu'on va terminer sur quelques mots. Je vais te laisser quand même dire le mot de la fin. Donc, on a vu que c'est pas pour avoir le titre, ça va avec tout ce qui va avec. On n'est pas rentré dans tous les détails. Hein. L'idée justement de cette émission, c'est de parler un petit peu des maires, des personnalités et de la tâche. Elle est grande. On n'est même pas rentré dans tous les axes, mais le projet, le coup de cœur, ce que tu aimerais faire dans les prochains jours à venir, les prochains mois ou les prochaines années.
Les prochaines. Et j'ai dada presque. Je suis interpellé par les risques majeurs.
Oui.
Tout le monde sait ça.
On vit sur une île, on le rappelle.
Ouais. On vit sur une île. J'ai passé beaucoup de temps et je passerai encore.
Ouais.
À mettre en garde les gens et à faire de la prévention. Parce que, situés comme nous sommes situés, sous la Cantillée, nous savons que du jour au lendemain, on peut avoir une catastrophe. On peut avoir un séisme. On attend un big one, mais je ne dis même pas. On peut avoir un séisme important. Le risque tsunami n'est pas à prendre à la légère.
On ne cesse de le rappeler, mais...
On ne cesse de le rappeler. Nous avons les risques de mouvement de terrain. Nous connaissons soleil levant. J'ai même un frère qui habite tout près. J'aimerais que les gens prennent conscience que nous sommes sur une île et qu'il faut qu'on fasse la prévention parce que nous chérissons notre île, mais il y a des dangers, il faut faire attention.
Et comme on dit, c'est pas l'en bas et fait que nous avons dit, ça nous a fait.
Ouais. Et puis il m'a dit que si ou quand gade, pas ni jou malais.
Qui est arrivé en plein soleil peut-être.
Et puis le coup de cœur que j'aimerais faire, c'est le coup de cœur à mes parents. Oui, mon dieu, je te attends, je pas ni temps. Jojo capacité tout le temps depuis hygiène bah les autres mais un moment arrivé tout le temps
Ben voilà, c'était le mot de la fin. Donc c'est un plaisir de te recevoir à la radio, Joseph Lozam. On prendra le temps de se revoir parce qu'on n'a pas eu le temps de parler des voyages, des anecdotes de l'Afrique, de Cuba. Donc on prendra le temps dans un autre cadre. Ouais. Donc j'espère que les auditeurs ont bien profité de ce moment enrichissant où tu t'es livré.
Oui, comme je ne l'ai jamais fait. Ouais. Comme je ne l'ai jamais fait. Mais je suis un gars ouvert.
Ouais.
Je suis un gars ouvert. Et puis, en fait, j'aime les gens.
Voilà, on va terminer sur ces quelques mots. On va remercier Dominique pour la réalisation technique.
C'était Tranche de vie avec Joseph Loza, une émission riche en informations. Et restez avec nous dans quelques instants. Retrouvez l'heure de nous-mêmes avec Mathieu Cordémy.